Histoire, actualité, actualité de fiction d'histoire avec Anaïs Quien, Clyde Plumosil, Isabelle Eulandena et Pascal Horry ce matin. Pour commencer, nous allons nous rappeler le travail et l'œuvre du très grand historien qu'était Pierre Milza, dont on a appris la disparition avant-hier. Puis nous commencerons notre table ronde fiction de chaque mois, donc avec le film Dopo la Guerra de Anna Rita Zambrano, qui sort en salle la semaine prochaine. Et puis ensuite, on vous parlera de la suite de Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, paru chez Albin Michel. Ça s'intitule Couleur de l'incendie. Et pour la troisième fiction d'histoire de cette table ronde, nous évoquerons Le Suaire de Gérard Mordilla, Jérôme Prieur et Éric Liberge, une bande dessinée qui vient de sortir chez Futuropolis. Avant que, pour terminer cette émission, comme tous les vendredis, nous ayons notre rubrique C'était à la Une, un C'était à la Une construit avec Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Et aujourd'hui, nous écouterons un article du journal de l'Empire lu par Hélène Losseur à propos de la victoire d'Austerlitz. Bonjour à vous Anaïs Quien.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Pascal Horry.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Clyde Plumosil.
Bonjour.
Et bonjour à vous Isabelle Eulandena, vous êtes au téléphone avec nous. Et puis également, bonjour à vous Caroline Douki, vous avez l'habitude de venir dans cette table ronde fiction, mais ce n'est pas pour parler d'un roman, d'un film ou d'une bande dessinée que vous êtes avec nous, et pour évoquer la mémoire de Pierre Milza, dont on a appris la disparition mercredi. Pierre Milza, très grand historien, pas simplement de l'Italie, du fascisme, mais de bien des sujets, car il était un historien curieux. Il a dirigé votre thèse, vous avez fait votre thèse avec lui, vous êtes aussi une des conceptrices du volume d'hommage à Pierre Milza, Caroline Douki. Votre thèse, c'était sur les mutations d'un espace régional sur l'Apennin toscan au 19e siècle. Vous êtes une spécialiste aussi de l'histoire des migrations italiennes. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'œuvre proliférante, pourrait-on dire, de Pierre Milza aujourd'hui, quand on veut lui rendre hommage, Caroline Douki?
Bonjour Emmanuel Laurentin. En fait, je suis déjà frappée par le fait que depuis mercredi, les très nombreux hommages à Pierre Milza en France et aussi en Italie, dans la presse italienne, dans l'université italienne, montrent quel a été son rayonnement sur l'historiographie contemporaine. Et ce rayonnement était très important, parce que son travail était très diversifié, très inventif. Et c'était sans doute dû à son parcours. En 1993, alors qu'il était à l'apogée de sa carrière, dans son voyage en Italie, c'était un essai en forme de bilan historiographique sur les questions migratoires et aussi un essai d'égo-histoire, Pierre Milza avait révélé comment, parce qu'il était un fils d'immigrés italiens en France, l'Italie avait nourri son parcours et son œuvre historique, mais dans le sens de l'ouverture et de la volonté de dépasser les frontières, dépasser les frontières géographiques, dépasser les frontières académiques et thématiques, où se distingue une grande diversité, comme vous l'avez dit, qu'on peut peut-être regrouper autour d'au moins trois axes. Le premier axe, c'est que au départ, Pierre Milza, c'est un historien des relations internationales, avec une thèse d'État sur les relations entre la France et l'Italie au début du XXe siècle, il a préparé dans les années 1970 sous la direction de Jean-Baptiste Durosel. Et tout de suite, il s'est distingué de deux façons. D'abord parce que c'est une façon de se démarquer des approches franco-centrées qui prévalaient alors. Et puis l'autre chose, c'est qu'il développe dans cette thèse une approche totale, globale, de l'histoire des relations internationales, où il fait varier les temporalités, le temps court diplomatique, les forces profondes aussi, qui pèse sur le temps long, sur les relations diplomatiques. Et là, il montre l'importance des enjeux économiques, sociaux, de la politique intérieure, mais aussi des relations migratoires entre les pays. Alors, il évoque la question du tourisme, la question du voyage comme un enjeu de relations internationales, Et il évoque aussi les questions migratoires. Mais avant de parler de ce deuxième axe, je voudrais souligner que Pierre Mylsa, il a toujours cultivé ce sillon des relations internationales en profondeur et en le renouvelant, en travaillant beaucoup à affiner la question de l'opinion publique et de son influence sur les relations internationales, en travaillant aussi à réfléchir sur la notion de puissance, de grande puissance. Et puis aussi, il a très tôt montré à quel point le sport était un enjeu de relations internationales, en publiant aussi des articles sur les Jeux Olympiques.
Ou sur le football.
Voilà, sur le football, pour montrer que c'était des scènes de compétition entre les puissances internationales, ou c'était des scènes où se rejouaient les hiérarchies internationales. C'est en travaillant sur les relations internationales entre la France et l'Italie qu'il a fait émerger l'importance des enjeux migratoires, puisque sa thèse d'État portait sur le début du XXe siècle, à une époque où les Italiens sont des centaines de milliers à passer les frontières pour travailler en France. Et dans ce deuxième axe de travail, donc sur les questions migratoires, Pierre Mylsa a été vraiment en France un pionnier, un constructeur. Il a été parmi les principaux acteurs de l'invention et du développement de ce champ de recherche qui est devenu très visible en France dans les années 1980. Et d'emblée, puisque donc lui travaillait sur ces questions dès les années 70, et pendant tout le reste de son... il a toujours travaillé sur les relations internationales, d'emblée dans une approche qui était pleinement internationale. Il faisait une histoire transnationale des migrations à une époque où le champ historiographique en France tendait quand même alors à se centrer, à juste titre, mais peut-être de manière un petit peu trop exclusive, sur l'horizon national, sur les politiques nationales françaises à l'égard de l'immigration.
Et puis il y a un troisième champ qui est très important chez lui, c'est évidemment le champ du fascisme. Il a là aussi profondément renouvelé les visions qu'on pouvait avoir, non pas du fascisme, mais des fascismes en l'occurrence, Caroline Doukhy.
Voilà, c'est le troisième axe très important de son travail, c'est en partant de l'histoire de l'Italie, et en partant de l'histoire du fascisme italien, qu'il a beaucoup contribué à renouveler en dialogue avec les historiens italiens du fascisme, notamment l'historien Renzo De Felice. Et il a aussi développé une approche comparée des fascismes à l'échelle mondiale. Hein, le gros volume qu'il avait publié en 1985 sur les fascismes était une histoire comparée à l'échelle mondiale. Et aussi en développant une analyse des extrême droite européenne au XXe siècle et jusqu'au temps présent. Et en n'hésitant pas, il faut le rappeler, Pierre Mylsa était un homme de conviction et d'engagement. Il s'engageait dans les questions de la cité et en n'hésitant pas à intervenir beaucoup à partir du milieu des années 80 dans le contexte de la montée de l'extrême droite en France. En montrant aussi que il fallait être attentif aux termes, être attentif au renouvellement des formes de l'extrême droite, en disant que l'utilisation trop générique de fascisme en fait n'aidait pas forcément à défendre la démocratie contre les formes nouvelles d'attaque contre elle. Donc c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer, sur le fait que Pierre Mylsa était un grand historien, c'était un homme généreux, tous les hommages depuis mercredi le rappellent, c'était un directeur de thèse libéral, généreux, patient, tolérant, et c'était un homme de conviction qui a joué un très grand rôle dans l'historiographie, mais aussi il a influencé plusieurs générations de Français, plusieurs générations d'étudiants, puisqu'il était aussi un professeur et un pédagogue, et il a rédigé avec son ami historien Serge Bernstein de très nombreux manuels universitaires, de très nombreux manuels du secondaire, où il a aussi voulu illustrer, c'est important peut-être dans le contexte d'aujourd'hui de le rappeler, l'histoire difficile mais constructive aussi de l'Europe.
Pascal Horry, vous connaissiez bien Serge Benstein, Pierre Milza, vous travaillez donc à Sciences Po en particulier autour de thèmes qui sont très proches de ceux de Pierre Milza, en particulier ces thèmes de l'extrême droite sur lesquels vous avez travaillé depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce que vient de nous dire Caroline Doucki de l'importance à la fois de l'œuvre de Pierre Milza mais aussi de sa personnalité, parce que c'était une personnalité très attachante et tout le monde, enfin c'est rare dans le milieu des historiens que d'entendre un tel concert de louanges après la disparition d'un grand historien comme Pierre Milza, pour sa générosité, son attachement à ses étudiants, la façon dont il avait aussi une grande libéralité par rapport à la question du travail de ses étudiants et de ses étudiantes.
Écoutez, tout a été dit très bien, en particulier par Caroline Doucki, sur l'apport historiographique de Pierre Milza, on ne peut que confirmer. J'insiste sur un point qu'elle a évoqué à la fin, à savoir que ça a été un grand pédagogue. C'était quand même, avec Serge Bersten, dans sa génération, la génération suivante, c'est Jean-Pierre Azéma, Michel Vinocq, c'était les grands professeurs d'histoire des années 60, 70, 80, 90, à Sciences Po. Donc, à destination d'un public qui, fondamentalement, n'était pas destiné à reproduire, comme dirait Bourdieu, des profs d'histoire. Et donc c'était très important. Ce sens de la pédagogie est bien connu par les fameux Manuel Bernstein-Milza. Et puis c'était un collègue, alors personnellement c'était plus qu'un collègue, je dois le dire, c'était vraiment un ami, j'allais souvent en Bretagne chez lui, etc. Extrêmement chaleureux, avec un contact d'emblée, il était de plein pied avec vous et avec des préoccupations, je dirais, populaires, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans l'université. Ça se sentait, et sa biographie, évidemment, permettait de l'éclairer. Et j'insiste sur Voyage en Italie, que Caroline a cité.
1993.
Parce que c'était un pas de côté. C'était à la fois une mise au point d'une historiographie sur l'immigration italienne, mais c'était fondamentalement un témoignage personnel. Et 15 ans après les Ritales de Cavana, d'ailleurs, on sentait que des voix pouvaient s'exprimer sur alors cette génération d'immigrants, qui était celle des parents de Pierre. Et ça a été important, ça a été assez libérateur pour d'autres historiens.
Ça. Oui, et puis ça permettait de dire effectivement que l'historien est engagé dans sa propre vie d'une certaine façon,
oui,
dans la question de la relation.
Ce que beaucoup de générations d'historiens n'avouaient pas.
Oui, effectivement. Anaïs Quien.
Oui, moi j'étais au lycée dans la deuxième moitié des années 90 et alors peut-être moins les manuels scolaires qu'on oublie assez vite finalement, mais peut-être les collections de poches d'histoire internationale de Bernstein et Milza, c'était vraiment très, très important, ne serait-ce que pour rencontrer une forme de récit historique. Bon, c'était un petit peu l'histoire des relations internationales racontée comme un roman d'espionnage, mais je crois que pour les lycéens de cette période-là, peut-être après j'ai un peu moins suivi, ça a été très important et Pierre Milza est une des figures tutélaires de la fabrique de la guerre froide. Très évidemment.
Ah oui, bien évidemment, parce qu'effectivement, le travail qu'il a mené avec Bernstein, justement, sur ce 20e siècle et ses soubresauts, effectivement, a beaucoup nourri les travaux que vous avez pu faire vous-même ensuite à la fabrique, par exemple, sur la question de la guerre froide.
C'était des ouvrages qui abordaient la question de l'état du monde dans l'immédiat lendemain d'après la chute du mur de Berlin. C'était les premiers très accessibles, comme ça, auxquels les adolescents étaient confrontés. C'était les premiers textes d'analyse qu'on a lus à ce moment-là. Là, lorsqu'on avait 15, 16, 17, 18 ans, sur ce monde qui semblait changer, ces adultes qui s'en inquiétaient et s'en réjouissaient, sur lequel nous, on avait finalement assez peu de prise.
Oui, il faut donc dire combien Pierre Milza a compté pour des générations nombreuses d'étudiants et d'étudiantes en histoire, mais plus largement un très large public, effectivement, parce que ses livres étaient des succès d'édition et il a permis de s'approcher d'une historiographie nouvelle dans les années 80, 90 et jusqu'à nos jours. Merci à vous Caroline Doucki, merci à tous les trois d'être intervenus donc autour de cette figure de Pierre Milza auquel il fallait rendre hommage ce matin dans la Fabrique de l'Histoire.
Je peux t'aider ?
Ça va, merci.
T'as quel âge, Viola ?
16.
Tu parles italien ?
Non.
Ton père te parle jamais italien ?
Non.
C'est dommage.
Et
T'as pas envie de connaître la famille italienne de ton père?
Non.
Tu sais que sa sœur à Bologne est mariée avec un juge?
Et alors?
Il a beaucoup de pouvoir, il est très important. Et peut-être qu'il pourrait l'aider à réduire sa peine s'il lui demandait.
Il demandera rien à personne en Italie.
Et toi, t'as envie d'aller vivre au Nicaragua?
Voilà, donc une scène du film Dopo la Guerra de Anna Rita Zambrano qui va sortir la semaine prochaine en salle et qui traite, on ne le comprend peut-être pas très précisément dans cet extrait, en tout cas il traite des rapports entre la France et l'Italie, mais à une autre période que celle dont on a parlé à propos de Pierre Milza, c'est-à-dire c'est les années 2000 après la fin de ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand qui permettait à des militants et à des personnes qui avaient participé aux années de plomb en Italie, de se réfugier sur le territoire français sans être inquiété pour raisons politiques. Et en 2002, tout cela est rompu. C'est ce que nous raconte le film Dopo la Guerra de Anna Rita Zambrano, qui est une sorte de suite des très nombreux films qu'on a pu voir depuis pas mal d'années maintenant sur ces années donc du terrorisme en Italie, une sorte de volet nouveau, pourrait-on dire, de ce regard porté sur ce moment-là, puisqu'on n'est plus dans les années 70, on n'est plus au moment de la mort d'Aldo Moro, on n'est même plus dans les années 80 ou 90, on est dans les années 2000 avec ce film, et on clôt, pourrait-on dire, une sorte de cycle qui est lié justement à cette ce déploiement de la violence politique dans l'Italie des années 70. C'est un film qui a divisé tous ceux et toutes celles qui sont autour de cette table. D'abord, qu'est-ce qu'on
ferme sur le trottoir en sortant de la salle.
Voilà,
on
ça discutait ferme sur le trottoir effectivement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Clyde Plumosil, de ce film donc qui nous raconte donc par l'intermédiaire d'un personnage, la petite et la jeune Viola, qui a 16 ou 17 ans au moment où se déroule ce film au début des années 2000, la question de la relation à cette lointaine histoire de son père qui s'était réfugié en France et qui va maintenant être poursuivi par les autorités italiennes et peut-être livré par les autorités françaises.
Moi, j'ai été très mal à l'aise pendant l'heure et demie qu'a duré la projection de ce film, qui est très de facture esthétique remarquable. Ça, y a rien à redire. Qui veut donner à voir une tragédie, enfin une tragédie grecque. Il faut rappeler que la cinéaste Anna Rita Zambrano était professeure de latin grec et donc elle connaît ses classiques. Et on est confronté à un père aveugle et une fille qui est obligée de d'en terminer par le parricide. Désolée pour le spoiler, mais c'est aussi dans la plaquette du film, donc je me permets de le dire.
Enfin, parricide au second degré. Hein,
voilà, exactement. Ah bah encore plus de spoiler. par fenêtre ouverte. Et du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est un conte moral. C'est pas un conte d'histoire. Et je crois que c'est ça qui m'a gêné le plus, parce que ce conte moral est totalement hors sol d'une forme de contextualisation historique qui permettrait de comprendre la situation et le huis clos, dans lequel se trouvent les personnages, à savoir ce père en fuite qui comble de l'égoïsme, prend sa fille avec lui. Enfin, c'est tel que c'est montré à l'écran. Prend sa fille avec lui en otage, exactement. Refuse toute explicitation de ses gestes passés et aussi ainsi que de ses gestes présents. Et moi, ça m'a mis très mal à l'aise parce que j'étais pas face à un archétype du militant révolutionnaire qui a fait le choix des armes de l'Italie des années de plomb, mais plutôt face à un cliché d'un militant gauchiste buté. Par ailleurs, il faut insister sur le fait que le choix de l'acteur, c'est un espèce de personnage énorme, imposant, dont on entend la respiration en permanence, qui ne peut susciter que le dégoût. Et donc, du coup, c'est pas tant la réflexion que l'émotion sur lequel travaille ce film, mais l'émotion sans clé d'interprétation.
Pascal Horry, à propos de Dopo la Guerra de Anna Rita Zambrano qui sort la semaine prochaine en salle.
Bon, apparemment dans cette émission on parle de fiction, ce qui vaut pour tout. Hein. Jean-Luc Godard dans sa grande période fasciste, il fait des fictions. Bon, et dans sa période gauchiste aussi. Donc c'est une fiction.
J'apprends avec vous qu'il y avait une période fasciste de Jean-Luc Godard.
Le petit soldat. Ouais. Mais donc ce sont des fictions nourries par évidemment une auteure qui a sa propre expérience. On peut-être préciser que l'auteur est fille de juge,
Donc il y a un personnage dans le film qui est professeur de lettres classiques, visiblement.
Exactement.
Bon. Et qui est la sœur de ce terroriste.
Donc effectivement, c'est le regard d'Anarita Zambrano. Ce n'est pas que ce regard-là, quand même, puisqu'on a parlé de Pierre Milza tout à l'heure. Ce qui est frappant, c'est que l'auteur est une Italienne. C'est quand même aussi, je suis désolé de le dire, parce que ça peut être récusé, un regard, à mon avis, quand même féminin sur, en particulier une femme, parce que évidemment le personnage principal, c'est pas le père, c'est la fille. Et effectivement, il y a l'idée que le dialogue ne fonctionne pas, que la fille est dans une autre société et qu'elle est en effet un peu prise en otage par son père.
Son père.
Ça, c'est clair.
D'autre part, il y a un co-auteur.
Chez Anarita Zambrano, il y a des souvenirs traumatisants des années de plomb. Puisqu'elle raconte très bien qu'elle avait 6 ans devant la télévision, les programmes sont interrompus et on apprend Aldo Moro. Bon. Donc, ça permet de nourrir la logique de ça. Mais surtout, puisqu'il s'agit des relations franco-italiennes, apparemment ici, nous sommes dans une radio française, nous sommes écoutés en majorité par des Français.
Ouais.
Le regard de beaucoup d'Italiens sur les années de plomb et les suites, et sur la doctrine Mitterrand, est souvent beaucoup plus sévère que le nôtre.
Bien sûr.
C'est-à-dire que il y a l'idée fondamentalement répandue dans beaucoup de milieux italiens, y compris de gauche, que, effectivement, il n'y avait pas de raison de protéger des terroristes. Et la question est posée. Donc là, c'est là qu'on retrouve la tragédie grecque. D'autant plus qu'à la fin, après tout, la fin est ouverte. Moi, je trouve qu'il y a ma seule réserve sur ce film, que je trouve très intéressant pour tout ce que je viens de dire, c'est ce sont les circonstances du fameux parricide que je trouve un peu scénaristiquement téléphoné.
Mais
il ne faut pas oublier que sur ce plan-là, il y a un écart entre la sensibilité majoritaire en Italie et pas simplement à droite, et en France. Et je termine sur un point. Il y a une tradition fictionnelle du terroriste depuis le 19e siècle, je rappelle. C'est l'anarchiste nihiliste russe. Il est toujours jeune, beau, romantique.
Oui, là, on en a terminé avec le romantique.
Voilà. Ouais. Mais ça me paraît historiquement intéressant. C'est-à-dire que les terroristes finissent par être gras et gros.
Oui, mais c'est frappant dans ce film. Alors, moi, j'étais pas mal à l'aise, j'étais même un petit peu en colère. Je me demandais quelle était la raison d'être de ce film. Il y a quand même quelque chose d'intéressant sur l'incapacité à en parler. On a ces enfants, ces deux petites filles, enfin, cette adolescente et cette petite fille qui ne sont que corps, d'une certaine façon, toutes les deux très sportives, posant assez peu de questions finalement aux adultes, et lorsqu'elles le font, adultes incapables de répondre et ne se posant même pas la question de la nécessité de transmettre quelque chose de ce pan d'histoire qui visiblement leur pèse et qui influe dans leur relation avec ces enfants. Donc cette relation intergénérationnelle, cette incapacité à mettre en mots, en discours, en échange ce moment d'histoire, notamment pour la partie du film qui se trouve en Italie, mais aussi pour ce réfugié politique qu'on n'aime pas vraiment, mais on aimerait aimer sa fille, et sa fille finalement ne pose pas de questions, ne s'implique pas, ne tente même pas de comprendre. Donc on a une représentation de la génération suivante qui est très décevante d'une certaine façon.
Oui, mais qui est peut-être assez réaliste, parce que je pense qu'Anarita est plus au courant du vécu de cette génération que nous.
Isabelle Lelandena, vous n'êtes pas encore intervenue, vous êtes au téléphone avec nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, alors, donc, de Dopo la Guerra, de Anarita Zambrano? Alors,
moi, je suis sur la position de Clyde Plumasil, c'est-à-dire qu'elle a dit dans son intervention qu'elle avait trouvé le film hors sol. Et c'est tout à fait mon point de vue. C'est-à-dire que le titre, déjà, pour commencer...
Après la guerre.
Après la guerre, se place dans une position très précise, qui est celle de la France, qui a pu considérer, du fait de la doctrine Mitterrand, qu'il y avait une sorte de guerre civile dans les années 70 en Italie. L'affichage dès la première, enfin avant même que le film commence, de cette doctrine Mitterrand de façon un petit peu travestie, parce que finalement la doctrine Mitterrand, c'était accueillir ceux qui ont renoncé explicitement à la violence et surtout qui n'ont pas de sang sur les mains. Et Marco, le terroriste qui est le père de Viola, a du sang sur les mains, c'est un juge. Et puis ensuite, il m'a semblé que si on maîtrise pas, si le spectateur ne maîtrise pas un minimum l'histoire de ces années-là, je ne vois pas très bien comment il peut comprendre les arcanes.
Un manque de contextualisation, c'est ce que vous reprochez.
Sans sombrer dans la didactique, parce que je suis bien d'accord avec Pascal Horry qui a dit que c'est, faut pas oublier, que c'est une fiction. Enfin, une fiction qui traite d'un sujet aussi douloureux, avec une très bonne idée, selon moi, ça a été dit, je crois, qui est de voir la situation par le biais du regard de la fille d'un terroriste à peine repenti, enfin même pas du tout repenti,
pas du tout.
Pense. Et donc ça, c'est une très très bonne idée. Mais ensuite, soit le début du film, c'est-à-dire l'assassinat d'un professeur d'université qui renvoie à un assassinat bien bien réel, Marco Biagi en 2002, qui est un juriste spécialiste de droit du travail qui travaillait avec Monti pour la réforme de l'article 18 sur le statut des travailleurs. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout explicité. Ensuite, on ne comprend pas bien, me semble-t-il, le problème de l'histoire des années de plomb, si on n'a pas suivi. Il y a beaucoup de silence, beaucoup d'ellipses. Donc, d'un point de vue artistique, sans doute, c'est une technique qui peut être intéressante. Mais et puis, alors, enfin, pour en rajouter, si je puis dire, je trouve qu'il y a beaucoup trop de pathos. Parce que, alors, le Marco, outre le fait qu'on peut considérer, comme Pascal l'a souligné, que les terroristes sont devenus gras et gros et qu'on n'est plus dans l'éthique sans H des années 70, il n'a plus de femme, mais il a une fille. On ne sait pas, d'ailleurs, ce que cette femme est devenue. Il a un frère qui est mort sous les coups de la police. Il a une sœur mariée à un juge aspirant à devenir procureur. Et puis, tout cela se termine fort mal. Donc, bon, moi, j'ai trouvé, un peu comme Clyde, que le film suscitait un peu de malaise et surtout beaucoup d'incompréhension pour ceux qui n'étaient pas capables de mettre des lignes entre les blancs des tirets. Voilà.
Bon, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette période des années de plomb que, personnellement, je n'ai pas eu de mal à lire le contexte, mais vous avez peut-être raison.
Il y a un moment quand même très intéressant, mais on est déçu par tout le reste du film, d'une certaine façon. Il y a un plan magnifique au début du film, lorsqu'on est dans cette salle de classe, dans cette salle de cours avec cette universitaire qui ensuite va être assassinée, où tout à coup la caméra, au lieu de regarder cette universitaire désemparée devant la révolte
de
et la colère de ses étudiants, se met du côté justement de ce professeur. Et là, on voit ce que ça peut faire d'avoir une salle, un amphithéâtre entier contre soi. Avec
et contre la réforme du travail des années 2000.
Et ça, je l'avais jamais vu au cinéma, en tout cas.
Si, un peu dans 120 battements par minute, cette idée de, d'être face à une foule. Oui, on n'est pas du tout dans le même contexte.
Mais pas dans un contexte d'opposition politique aussi violente.
Bien sûr.
Voilà, d'opposition politique.
Clyde Plumbosi et Pascal Horry pour terminer.
On peut voir le rapport de force. Et c'est le seul moment du film où on le voit. Et pour quelqu'un, pour le public français qui n'a pas de connaissances fines des années de plomb, sur le point de vue de l'histoire, ça n'apporte pas malheureusement que très peu d'éléments. Et par ailleurs, d'un point de vue historiographique, ça me semble totalement en décalage avec le travail de mémoire et le travail d'histoire mené actuellement par les historiens italiens, et dont Marc Lazare, dans l'Italie des années de plomb, a bien rendu compte, où justement on essaye de comprendre le récit des origines de cette violence qui permet à la fois de faire son deuil et en même temps d'avancer.
Pascal Horry, très brièvement.
Ça fait trois phrases. Premièrement, c'est un film qui était destiné à l'Italie. Il est sorti en Italie depuis plusieurs mois. Bien sûr, il est coproduction franco-italienne. Anarita Zambrano vit principalement en France. Mais c'est d'abord destiné visiblement au public italien. Donc, le côté elliptique, c'est pour les Français. Deuxième point, après la guerre, ça dit tout. Parce que je trouve que Marco a toute sa chance. C'est-à-dire que ce qui est dit dans la bouche de Marco, c'est très crédible. C'est pas du tout caricatural.
Bah, on connaît.
Ce qu'il répond à la journaliste, en particulier, c'est de dire la justification, parce qu'à un moment, il reste blanc, évidemment, aux assassinats, c'est que c'était la guerre.
Oui,
ce qui est très pertinent.
Au moment de l'affaire Batiste,
ce qui est très pertinent en ce qui concerne l'analyse du radicalisme, qui considère que nous sommes dans des sociétés en guerre. Et puis, effectivement, je pense qu'il y a peut-être des faiblesses scénaristiques. Mais, dans l'ensemble, la dimension tragique, il y a des allusions à Dante qui sont très claires, la dimension tragique est assumée.
Oui, moi j'ai trouvé ça très intéressant, quand on a vu beaucoup de films sur cette question des années de plomb, que d'avoir une sorte de nouveau volet qui s'ouvrait avec ces questions de relations avec les générations suivantes. Et j'ai trouvé que ça apportait quelque chose, effectivement, à la connaissance de cette Italie, peut-être un peu elliptique, mais tout de même très intéressant.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
L'éventail de Jeanne, une composition de Maurice Ravel de 1927, dirigée par Claudio Abbado, pour évoquer la deuxième fiction d'histoire de cette table ronde de ce mois. C'est la suite de Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, Couleur de l'incendie chez Albin Michel, un livre tout aussi volumineux que le premier, qui trace le parcours de Madeleine Péricourt, que l'on avait déjà rencontré dans le premier tome Au revoir là-haut, donc héritière d'un empire, pourrait-on dire, un empire de banque en particulier dans la France des années 20 et dans les années 30. Et comme dans le premier volume, à savoir Au revoir là-haut, Pierre Lemaître s'attache à montrer à la fois les ambiguïtés de ces années 20 et 30, les relations très particulières qu'il y a entre les milieux d'affaires et les milieux politiques du fascisme montant. On est toujours aussi lié d'ailleurs à cette question de Pierre Milza et du fascisme par l'intermédiaire de ce roman, puisqu'il y a dans ce roman un personnage qui veut créer un grand journal fasciste français qui s'appellerait Le Licteur. Et donc un foisonnement de personnages dans ces couleurs de l'incendie. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Pascal Horry? Ensuite, je donnerai la parole à Isabelle Landonna et à, donc vous aussi, Clyde Plumosil.
On est dans la logique du roman feuilleton, et ce qui est bien, c'est que Pierre Lemaître assume complètement. Ça se sentait effectivement dans le précédent. On nous annonce un troisième volume, donc après Les Trois Mousquetaires, et 20 ans après, on a le Vicomte de Bragelonne. Enfin, pour être exact, on a le Comte de Monte Cristo, puisqu'il s'agit d'une vengeance avec des machinations assez subtiles, des coups de billard à plusieurs bandes, et finalement, les méchants sont plutôt punis. Bon, on lit ça avec beaucoup de plaisir. C'est fondé sur une connaissance assez précise de la période. À mon avis, la société est quand même relativement absente, mais c'est peut-être la logique du roman feuilleton, hein, c'est-à-dire que on est effectivement dans les hautes sphères sur lesquelles on peut tirer à vue. Les rapports de force dans la société, je les vois de façon assez fugitive.
Avec un intérêt tout de même, c'est s'intéresser aux femmes dans la société des années 20 et des années 30.
C'est un roman de 2018.
Ouais, bien
voilà.
Sûr.
Bon, c'est ça l'explication. Sinon, on retrouve Madeleine Péricourt, qui est dans le rôle du personnage principal du Comte de Monte Cristo. Et puis ce André Delcourt, qui effectivement est intéressant parce que je pense qu'il y a quelques années, pour un roman feuilleton situé dans les années 30, peut-être qu'on aurait moins insisté, qui est un intellectuel fasciste.
Un opportuniste fasciste.
Oui, mais c'est pas contradictoire. Il y a des opportunistes gauchistes aussi.
Oui, voilà.
Voilà. Et sur ce plan-là, on suit avec intérêt. Parfois, évidemment, l'auteur souligne ses effets, intervient d'ailleurs.
Il s'adresse au lecteur.
Il y a l'adresse au lecteur, ce qui est également une certaine tradition feuilletonesque.
Oui, Isabelle Landonna, à propos de Couleur de l'incendie, le dernier roman de Pierre Lemaître, la suite de Au revoir là-haut.
Alors, moi j'avais bien aimé Au revoir là-haut, j'ai encore plus aimé Couleur de l'incendie. Je trouve que ça se lit très aisément et très agréablement, mais bon, j'étais déjà une fan de Pierre Lemaître quand il écrivait des romans policiers,
oui.
Donc voilà.
Et comme
alors,
moi, ouais.
Sur le fond, je dirais comme Pascal que c'est effectivement un roman feuilleton, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, et que c'est l'histoire d'une vengeance, donc que c'est plus le Comte de Monte Cristo qu'autre chose. Et, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est un peu ce que soulignait en négatif Pascal, qui disait que la société était absente. Eh bien, ce que j'ai trouvé justement intéressant dans cet ouvrage, c'est dans ce roman, c'est que le parti pris manifestement, c'est de traiter, enfin de raconter l'intrigue à travers des personnages qui sont en réalité typologiques. Mmh. Et à travers ces personnages qui sont typologiques, de traiter de problèmes plus généraux et qui d'ailleurs ont un écho assez sympathique avec 2018.
Ah oui, on pense à l'UBS, à l'Union des banques suisses,
voilà,
à tout un tas d'autres choses de ce genre.
L'évasion fiscale, le boycottage. Les escroqueries, alors là, c'est escroqueries au cimetière pour soldats de la Deuxième Guerre mondiale, la presse, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est un vrai roman historique et que l'absence de la société, finalement, personnellement, ne m'a pas beaucoup gênée parce que c'est vraiment, enfin, je pense, le choix de l'auteur et c'est un parti pris, finalement, qui permet d'aborder des problèmes plus généraux à travers des personnages types qui sont tous ou très attachants ou particuliers odieux. Moi, j'ai adoré la diva, Solange,
ah oui.
qui prend, comment dirais-je, en affection le petit Paul, fils de Madeleine Péricourt, donc un personnage qui se promène dans l'Allemagne nazie et qui fait un coup d'éclat. On ne va pas dévoiler, spoiler le roman, mais bon, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et puis enfin, le fait qu'on nous raconte l'histoire de Madeleine Péricourt, qui dans Au revoir là-haut était évidemment assez évanescente, qui devient un personnage qui au début du roman on dirait qu'elle est pas très jolie, on a l'impression qu'elle est un peu nunuche, qu'elle n'a pas été éduquée pour prendre le pouvoir, pour diriger quoi que ce soit, comme c'est assez normal pour cette époque-là, et on la voit construire de manière très subtile et même très complexe, une immense machination pour se venger de tous les gens qui lui ont fait du mal. Et ça marche. Et moi, je trouve que c'est pas désagréable de voir un roman comme ça avec une fin dont Pascal soulignait qu'elle punit finalement les méchants. Et puis, dernière chose, Pascal évoquait donc l'absence de la société, puisque c'est les Hauts-de-Fer, le rapport de force. Mais enfin, il y a quand même le personnage de Dupré.
Oui.
Qui est un monsieur basse-œuvre dans Couleur
de l'incendie, ouais.
Non, dans Au revoir là-haut.
Ah, dans Au revoir là-haut, oui, bien sûr.
Voilà, il est monsieur basse-œuvre, mais basse-œuvre vraiment méchante, escroquerie, etc.
Et là, il se rattrape.
Et qui devient monsieur basse-œuvre et amant de Madeleine Péricoult. Et à travers ce personnage de Dupré, on voit quand même des choses un petit peu plus vastes du côté des trajectoires politiques des individus.
Clyde Plumosil sur Couleur de l'incendie.
Oui, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit. Du coup, je me permets de lire un tout petit passage.
Allez-y.
Sur le personnage de Dupré, où je pense que Pierre Lemaître investit un peu de lui-même aussi dedans.
Beaucoup, beaucoup. Oui.
Page 236. Il changeait souvent d'emploi car il saisissait toujours l'occasion dès qu'elle se présentait de soutenir les revendications, de plaider pour la grève, de s'opposer au pouvoir. Ça ne finissait jamais bien. Au fond, pour Dupré, aider à ruiner un banquier, à écraser un député de la bourgeoisie, à dessouder un journaliste réactionnaire, c'était une mission comme une autre en faveur du désordre, de la déstabilisation. Une action de sape modeste. Sans héroïsme, il ne croyait pas aux héros. Tout à fait le genre de choses qui pouvait lui donner le sentiment de participer ultimement à la montée du chaos. Et c'est assez génial avec ce passage parce que de fait, Dupré, il agit un peu comme le bras armé de Madeleine Péricoult et il a un rôle clé dans ce roman qui est un peu construit autour de la vengeance de tous contre tous. Et c'est très jubilatoire en fait, en tant que lecteur, lectrice, de s'engager dans cette lecture. Sur la question de ce que ça nous donne à voir de cette société des années 30, je trouve qu'on est quand même en présence d'un livre vraiment de la culture populaire de cette période de l'entre-deux-guerres.
Le journalisme, l'édition.
C'est ça. Et qui joue véritablement avec à la fois les codes de cette société passée et puis nos codes présents, parce qu'il y a plein de personnages comme les filles de Charles Péricoult, donc le frère de l'ancien grand banquier décédé.
Avec leurs affreuses dents.
Voilà, avec leurs affreuses dents qui font penser à du Disney ou du Tintin. Enfin, il y a des caricatures comme ça qui sont très agréables pour le lecteur pour être pris par la main justement dans le roman. Et par ailleurs, quand même, avec des ouvrages comme celui de Vuillard sur l'ordre du jour, on a quand même des clés de lecture pour comprendre comment on avance dans les années 30 vers le fascisme. Hein. Mm-hmm. C'est ça que pose aussi l'ouvrage. Et puis, par ailleurs, je voudrais rendre hommage au fait que Pierre Lemaître, on a parlé de Dumas, il se situe dans la tradition des grands feuilletonistes et il fait vraiment du roman un outil de simplificateur du réel, d'élucidation du présent. Et pour le coup, je trouve que, quand bien même il se joue un peu de l'histoire, ça nous permet d'avoir des clés de lecture.
Parce qu'il travaille beaucoup, il remercie effectivement, oui, il a beaucoup lu pour préparer.
Il y a Pierre Milza
et il remercie une jeune docteur, Camille Clairet, en histoire des femmes en particulier et des femmes de l'action française dans les années 30.
C'est
donc effectivement, il a beaucoup lu, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup appris en lisant la presse de ces années-là. Et il faut dire que ça sert pour pouvoir donner une sorte de toile de fond riche à ce roman.
C'est ça, et une toile de fond et de l'épaisseur au personnage, comme Madeleine Péricoult, qui jusqu'à présent n'avait regardé le monde que de sa fenêtre, et qui par une suite d'incidents qui font d'elle une femme ruinée, grâce au déclassement qu'elle vit, peut enfin accéder au véritable monde.
Oui, très brièvement, Pascal Horry, sur ce
coup. Oui, les trois pages auxquelles faisait allusion Clyde, la 234-236, donnent à mon avis la clé politique du livre, et de Pierre Lemaître, qui pourrait dire « Monsieur Dupré, c'est moi », comme Gustave Flaubert. Mais évidemment, politiquement, ça signifie l'abandon des grands espoirs collectifs. C'est le libertaire dont on rappelle effectivement, vous avez eu raison Emmanuel, l'ambiguïté dans le roman précédent. Donc, un libertaire désespéré et solitaire, ça c'est à peu près la leçon politique qui paraît quand même très différente chez Éric Vuillard sur ce plan-là.
Mais c'est très intéressant effectivement que de pouvoir comparer ces mêmes ouvrages, ces mêmes romanciers. D'ailleurs, ils avaient aussi publié en même temps sur la Première Guerre mondiale et d'une certaine façon, voir évoluer leur regard sur les années 30 est extrêmement intéressant. Il faut donc conseiller effectivement l'Ordre du jour de Éric Vuillard, prix Goncourt cette année, en même temps que le prix Goncourt qu'avait reçu Pierre Lemaître pour Au revoir là-haut, et donc se poursuit avec ce Couleur de l'incendie chez Albin Michel, que personnellement j'ai évidemment beaucoup aimé, vous l'avez peut-être compris. Troisième fiction d'histoire de cette table ronde fiction, le Suaire, premier tome d'une trilogie d'Éric Liberge avec au scénario Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, les auteurs de Corpus Christi et pas simplement de Corpus Christi, c'est une bande dessinée chez Futuropolis. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette bande dessinée, Anaïs Quien ?
Alors, ce qu'il faut en penser, vous vous ferez votre propre idée. Mais non, cette bande dessinée est assez réjouissante. Alors Gérard Mordillat, on les connaît pour leur grande série documentaire un peu austère. Ils ont passé des années pour faire Corpus Christi, les origines du christianisme, Apocalypse, Jésus dans le Coran, à interviewer des historiens, des théologiens, des sémiologues sur l'histoire religieuse pour passer littéralement au scalpel à cette histoire religieuse dans l'audiovisuel public. Ici, c'est une forme d'aventure compensatoire, c'est-à-dire que l'incarnation est au centre de l'exercice. On a de la chair partout et sous toutes ses formes.
Puisque ça raconte l'histoire du suaire, du fameux suaire de Turin.
Viande, sous la forme d'une frustration sexuelle, d'une passion sexuelle inassouvie entre cousins en ce
14e siècle.
14e siècle, je crois. Et puis cette chair nécrosée, purulente, des pestiférés agonisants. On reconnaît bien aussi la patte, malgré ce dessin peut-être un petit peu dépassé, mais la patte de scénaristes dans leur souci de couvrir un petit peu tous les champs de l'histoire, à la fois l'histoire politique de l'invention des reliques, l'impact social de ces conflits politiques du XIVe siècle, qui font finalement un bon premier tome, parce que ça n'est que le début de l'histoire, où Jérôme Prieur et Gérard Mordillat, cette fois-ci, je me trompe pas, choisissent une des hypothèses pour en faire littéralement un roman. On est là absolument pas dans une bande dessinée documentaire.
Oui, Isabelle Landonna, vous êtes la médiéviste de cette table ronde fiction. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Suaire, brièvement, parce qu'il nous reste peu de minutes, malheureusement. Allez-y.
J'en ai pensé du bien. Je veux dire tout d'abord que les dessins m'ont beaucoup plu. C'est une BD économe, très économe en texte. Et qui joue beaucoup donc sur l'image. Alors sur le fond, peut-être pour les auditeurs, dire que l'ouvrage s'ouvre sur une crucifixion d'un homme circoncis et il est tout seul sur lequel on va placer une plaque et puis ensuite on se retrouve dans la Champagne en 1357. Alors ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il prend pas mal de liberté avec la réalité historique telle qu'on a pu la reconstruire pour le XIVe siècle, à la fois sur l'histoire du Suaire lui-même, mais aussi sur les flagellants, sur la peste, etc. Donc quelques libertés, notamment par exemple sur les pontificats, etc., etc. Mais en même temps, il me semble que l'ouvrage décrit bien cette ambiance qui porte au milieu du XIVe siècle, après le passage de la peste noire et au moment où de nouveaux épisodes en pleine guerre de 100 ans ressurgissent, comment on essaye de pousser la dévotion des reliques. Et là, évidemment, on invente, alors au sens propre du terme, on découvre le suaire de Turin, mais c'est une mystification. Mmh. Alors, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, ça reprend une hypothèse, sachant que le suaire de Turin, c'est la bouteille à l'encre, mais c'est bien du suaire de Turin dont il s'agit. Et effectivement, l'histoire, pour autant qu'on sache, commence à Liray, dans l'aube, au milieu du XIVe siècle, avant de connaître divers rebondissements. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, à la fois dans l'intrigue et dans la manière dont elle est mise en scène à travers le dessin et beaucoup d'économies de texte.
Clive Plumosil, à propos du Suaire, donc de Éric Liberge, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, une bande dessinée chez Futuropolis, premier tome.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle et par ailleurs, je trouve que vraiment pour comprendre ce qu'a été l'angoisse du salut à cette période dans les sociétés médiévales, cette BD est très forte du point de vue des images et comment cette angoisse du salut se traduit par des comportements et des croyances qui échappent à l'Église et au cadre normé de la religion chrétienne à ce moment-là. On voit ces compagnies de flagellants comme ça qui rythment plusieurs des chapitres de cette BD qui sont une réaction justement à ce temps de grande incertitude et à la peste. On voit mis au bûcher juifs et flagellants justement pour lutter contre la peste qui se répand en France à ce moment-là. Et puis ce à quoi j'étais très sensible aussi, c'était cette question du trafic des reliques mis en image et du trafic des reliques aussi lié au fait de l'importance de l'image de la relique. Il y a vraiment une planche qui est assez géniale, page 63, où ça y est, on a falsifié, enfin on a créé de toutes pièces ce suaire et on le montre dans l'abbatiale des frères des moines antonites qui ont monté la supercherie. Et on voit, en fait, c'est comme si on allait au cinéma. On voit une foule d'individus qui payent leur obol à l'entrée et qui s'installent dans une salle limite noire, et on voit se dresser comme un écran de cinéma le suaire face à eux, ce qui déchaîne donc leur admiration, leur émotion. Et puis après on s'en va et ainsi.
Et puis après, une femme met feu à cette église.
Pascal Horry, à propos de ce suaire de Mordillat, prieur, et Éric Liberge chez Futuropolis.
Ben, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ferai un lien avec Pierre Lemaître, c'est-à-dire qu'on a affaire à une trilogie, puisque ça c'est le tome 1. On nous annonce un tome 2 qui se situera à Turin au 19e siècle, et le tome 3, accrochez-vous bien, aujourd'hui à Corpus Christi, au Texas. Bon, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, comme Pierre Lemaître ou Éric Villat, connaissent très bien l'histoire, vraiment se sont bien documentés, et ils choisissent l'hypothèse, qui est sans doute la plus vraisemblable, de la forgerie, etc. C'est un choix, parce qu'il y a quand même d'autres hypothèses qui n'excluent pas la forgerie, mais qui très plus haut à l'époque byzantine.
Hein, voilà. Bon.
Et d'autre part, clairement, il y a effectivement un lien avec l'époque contemporaine, les émotions populaires, la manière dont la propagande...
Contemporaine du 14e siècle, en l'occurrence.
Non,
encore aujourd'hui.
21e siècle, oui, quand même, malgré tout. Et alors, en ce qui concerne Éric Liberge, certains peuvent avoir des réserves sur le dessin. Je rappelle que c'est un très grand dessinateur, mais avec une esthétique un peu différente. C'était l'auteur de quelque chose d'absolument fou qui s'appelait Monsieur Mardi Gras des Cendres. Là, il s'est un peu assagi, mais je pense que c'est assez cohérent avec le propos des deux auteurs principaux, parce que ça vient quand même d'eux, Mordillat et Prieur, et dont il faut dire que ce qu'on a cité tout à l'heure, Corpus Christi, l'origine du christianisme, Jésus et l'islam, sont absolument remarquables. C'est un travail inouï, d'une certaine façon, qui montre bien à quel point l'audiovisuel peut contribuer à l'intelligence historique.
Merci beaucoup à propos de ce suaire, donc chez Futuropolis, dernière fiction d'histoire de ce jour. Pierre Lemaître, c'est Couleurs de l'incendie, on en a parlé juste auparavant. Et le film, c'était Dopo la Guerra de Anarita Zombrano. Mais il nous faut terminer avec notre séquence de tous les vendredis, à savoir la séquence avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France. Une séquence, donc, aujourd'hui, il s'agit de C'était à la une, et ce C'était à la une, il s'agit de la victoire d'Austerlitz, lue par Hélène Losseur.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Journal de l'Empire, 17 décembre 1805. Le 11 frimaire, le jour parut enfin. Le soleil se leva radieux, et cet anniversaire du couronnement de l'empereur, où allait se passer un des plus beaux faits d'armes du siècle, fut une des plus belles journées de l'automne. Cette bataille, que les soldats s'obstinent à appeler la journée des trois empereurs, que d'autres appellent la journée de l'anniversaire, et que l'empereur a nommée la bataille d'Austerlitz, sera à jamais mémorable dans les fastes de la grande nation. L'empereur, entouré de tous les maréchaux, attendait pour donner ses derniers ordres que l'horizon fût bien éclairci. Au premier rayon du soleil, les ordres furent donnés, et chaque maréchal rejoignit son corps au grand galop. L'empereur dit, en passant sur le front de bandière de plusieurs régiments, « Soldats, il faut finir cette campagne par un coup de tonnerre qui confonde l'orgueil de nos ennemis. » Et aussitôt, les chapeaux au bout des baïonnettes et des cris de « Vive l'empereur !» furent le véritable signal du combat. L'armée française, quoique nombreuse et belle, était moins nombreuse que l'armée ennemie, qui était forte de 105 000 hommes, dont 80 000 Russes et 25 000 Autrichiens. La moitié de cette armée est détruite. Le reste a été mis en déroute complète et la plus grande partie a jeté ses armes. Cette journée coûtera des larmes de sang à Saint-Pétersbourg. Puisse-t-elle y faire rejeter avec indignation l'or de l'Angleterre ? Et puisse ce jeune prince, que tant de vertus appelait à être le père de ses sujets, s'arracher à l'influence de ses 30 freluquets et dont les impertinences obscurcissent ses intentions, lui font perdre l'amour de ses soldats et le jettent dans les opérations les plus erronées. La nature, en le douant de ses grandes qualités, l'avait appelé à être le consolateur de l'Europe. Des conseils perfides, en le rendant l'auxiliaire de l'Angleterre, le placeront dans l'histoire au rang des hommes qui, en perpétuant la guerre sur le continent, auront consolidé la tyrannie britannique sur les mers et fait le malheur de notre génération. Si la France ne peut arriver à la paix qu'aux conditions que l'aide de camp Dolgorouki a proposées à l'empereur et que M. de Novosiltsov avait été chargé de porter, la Russie ne les obtiendrait pas, quand même son armée serait campée sur les hauteurs de Montmartre. Dans une relation plus détaillée de cette bataille, l'état-major fera connaître ce que chaque corps, chaque officier, chaque général ont fait pour illustrer le nom français et donner un témoignage de leur amour à leur empereur. Le 12, à la pointe du jour, le prince Jean de Liechtenstein, commandant l'armée autrichienne, est venu trouver l'empereur à son quartier général, établi dans une grange. Il en a eu une longue audience. Cependant, nous poursuivons nos succès. L'ennemi s'est retiré sur le chemin d'Austerlitz, à Göding. Dans cette retraite, il prête le flanc. L'armée française est déjà sur ses derrières et le suit, l'épée dans les reins. Jamais champ de bataille ne fut plus horrible. Du milieu de lacs immenses, on entend encore les cris de milliers d'hommes qu'on ne peut secourir. Il faudra 3 jours pour que tous les blessés ennemis soient évacués. Le cœur saigne. Puisse tant de sang verser, puisse tant de malheurs retomber enfin sur les perfides insulaires qui en sont la cause. Puissent les lâches oligarques de Londres porter la peine de tant de maux.
Voilà pour ce C'était à la une, donc avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France à propos d'Austerlitz, un extrait du texte du Journal de l'Empire de 1805. Si vous voulez connaître mieux justement ce texte et son contexte, n'hésitez pas à aller sur le site Retro News pendant ce week-end et à réécouter bien évidemment tous les anciens C'était à la une. Allez, c'est le week-end, un petit mambo pour terminer, à Figo Mambo par Marc Richard pour terminer cette émission. Je rappelle que la semaine prochaine, nous parlerons de la jeunesse et de son histoire à différents moments de périodes de l'histoire, que ce soit au Moyen-Âge ou au XXe siècle. Cette jeunesse est donc au cœur de l'émission la semaine prochaine et que l'histoire continue bien évidemment sur France Culture pendant le week-end avec l'émission Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonnet qui demain évoquera le conflit du Larzac archaïque ou moderne avec Pierre-Marie Terral.